Vous êtes toujours sur les ondes de Choc FM 105.1 et j'ai le grand plaisir de retrouver notre spécialiste de l'Afrique et des Caraïbes, Mansour. Bonjour Mansour.
Bonjour Guillaume, tu fais toujours peur en me disant on va appeler un spécialiste.
Comment vas-tu aujourd'hui?
Je vais très bien, et vous?
Oui, tout va bien à la radio. On va parler cette semaine de la résolution déposée par les pays africains à l'ONU pour contester la nomination par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU du premier expert international responsable d'enquêter sur les violences et les discriminations à l'encontre des lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres, c'est-à-dire ce qu'on appelle communément la LGBT. Alors aujourd'hui, Mansour, tu nous parles plus particulièrement de ces pays donc, qui s'opposent en Afrique à cette résolution. Est-ce que tu peux commencer par nous introduire cette problématique?
Ben écoute, Guillaume, l'Afrique a décidé vraiment de c'est comme s'il y a une gouvernance mondiale qu'on voulait imposer, et voilà. L'Afrique a décidé de parler, quoi, de se tenir debout, entre guillemets. Voilà, en fin septembre, le Conseil des droits de l'homme a nommé un expert. Alors, son mandat, c'était d'enquêter sur les violences et les discriminations à l'encontre des LGBT.
Oui.
Alors, le mandat de ce dernier, c'était de protéger les personnes victimes de la violence et des discriminations, protéger donc les personnes victimes de violence et de discrimination à cause de leur orientation sexuelle et de leur identité sexuelle.
Oui.
Jusque-là, c'est parfait. Encourager. Mais c'est là où il y a un problème, c'est parmi ces tâches, l'expert doit encourager les États à adopter des mesures pour protéger les LGBT.
Oui.
C'est ça qui a fait tiquer les États africains. Alors, non seulement adopter des mesures pour protéger les LGBT, mais à appliquer ces mesures-là. Alors, je vais revenir un peu plus tard pour dire pourquoi ça fait tiquer les États africains.
Oui.
En fait, l'objectif réel de l'expert nommé par le Conseil des droits de l'homme, c'est de normaliser, entre guillemets, l'homosexualité et les questions de genre un peu partout dans le monde, et surtout dans les pays du Sud, qui ont le plus souvent des lois homophobes.
Oui.
La résolution qui a mené la nomination de l'expert a été parrainée par le gouvernement d'Obama.
Oui.
Il y a aussi des pays d'Amérique du Sud, je pense à l'Argentine, Chili, Mexique, entre autres, et s'y sont ajoutés 41 pays. Donc, c'est vraiment un grand nombre de pays qui ont parrainé la nomination de cet expert.
Alors, quel est le contexte, justement, qui a conduit à cette nomination de cet expert au Conseil de l'ONU?
Ben, le contexte, c'est simple. Il y a le fait que il y a 73 pays à travers le monde qui ont des lois homophobes, des lois qui criminalisent l'homosexualité.
73
pays. Si vous vous déclarez homosexuel, voilà, on vous dit que vous êtes un criminel.
Mm-hmm.
Et parmi ces 73 pays, il y a 33 pays africains.
D'accord.
Qui ont des lois homophobes.
Donc il s'agissait de faire évoluer les mentalités sur cette question de l'homosexualité, en particulier dans les pays.
Et un peu partout, on a assisté à quoi? On assiste vraiment à des personnes qui... Ces gens-là, ils sont violentés, ils sont discriminés dans tous les pays et tous les jours.
Mmh.
Alors, tout simplement parce que, à cause de leur orientation sexuelle, l'ONU a dit, bah, écoutez, ça ne peut pas continuer, quoi. Ça ne peut plus prospérer.
Alors, quelles sont les raisons avancées par ces pays africains qui s'opposent à cette promotion de l'homosexualité et des droits des LGBT? Quels sont les pays luttant pour l'égalité et la non-discrimination des LGBT en Afrique en particulier?
Ben, les pays disent, voilà, le Conseil des droits de l'homme ne doit vraiment pas se pencher sur les questions d'orientation sexuelle et de genre. Les questions d'orientation sexuelle et de genre ne sont pas du ressort du Conseil des droits de l'homme. Et ne devraient pas l'être dans la mesure où, si par exemple, le fait de légaliser les droits des homosexuels et autres, le fait de légaliser leurs droits, ça entrerait dans l'arsenal juridique que l'ONU pourrait, par exemple, utiliser pour demander à certains pays, par exemple l'Arabie Saoudite, la Russie, à leur dire, écoutez, il faut éliminer vos lois homophobes, tout simplement parce que vous avez ratifié, sur le plan international, des traités qui visent à protéger les droits des gays, lesbiennes, transgenres et bisexuels. Vous voyez l'enjeu.
Donc ces pays-là ne veulent pas ratifier ces lois, ne veulent pas qu'un expert de l'ONU mette son nez dans leurs affaires intérieures, en particulier en ce qui concerne ces questions d'orientation sexuelle, n'est-ce pas ?
C'est ça. Ils ne veulent pas, par exemple, que l'ONU dise, écoutez, vos lois homophobes, là, il faut les éliminer, tout simplement, parce que vous avez signé des traités internationaux et donc vous devez protéger les gays, lesbiennes, bisexuels et transgenres.
Alors, quels sont les pays qui s'opposent plus particulièrement, justement, en Afrique ? Quels sont les pays qui s'opposent à cette résolution ?
Ben, il y en a 33. Je vais peut-être en citer quelques-uns. Il y a l'Ouganda, Nigeria, Soudan, Mauritanie. Si vous sortez de l'Afrique, il y a l'Arabie Saoudite, avec sa loi islamique qu'on appelle Sharia. Il y a la Russie aussi qui s'oppose à cette loi. Vous voyez donc qu'il y en a beaucoup, quoi.
Beaucoup de pays de par le monde qui s'opposent.
Je peux signaler aux auditeurs que le Canada, c'était un peu comme ça. Hein. Les lesbiennes, les gays et autres étaient complètement discriminés. Alors, dans la fonction publique fédérale.
Tu nous parles là d'un temps ancien.
Oui, je parle de dans les années 50, par exemple. On les écartait complètement.
Tout à
fait. De l'armée et de la fonction publique. Et cela est poursuivi jusqu'en 69, date à laquelle l'homosexualité a été légalisée ici.
Oui.
69, légalisation de l'homosexualité au Canada. Et l'armée a continué à écarter les homosexuels et les lesbiennes jusqu'en 92. Hein.
Alors, est-ce que l'homosexualité est malgré tout autorisée dans certains pays en Afrique, encore aujourd'hui ?
Il n'y a qu'un seul pays, c'est l'Afrique du Sud.
L'Afrique du Sud, où
vraiment on a reconnu les droits des gays et autres. Et là, il y a aussi le mariage homosexuel est reconnu.
Oui.
C'est difficile pour les États africains, tout simplement parce qu'en Afrique traditionnelle, et même actuellement, en Afrique traditionnelle, l'homosexualité est vue comme une déviance sexuelle. Vous voyez, ils disent qu'ils font des actes contre nature, et par conséquent, on ne peut pas parler de droits pour eux.
Alors, comment faire pour protéger, malgré tout, ces personnes-là et éviter qu'elles n'aient à subir des violences? Est-ce que le terrain choisi par l'ONU n'était pas la bonne formule, d'après toi? Est-ce qu'il faudrait faire d'autres choses? Est-ce qu'on peut arriver à un terrain d'entente avec ces pays?
Vous posez un col. J'avoue franchement que vous posez un col. L'ONU, c'est vraiment la plateforme idéale pour discuter de ces questions-là. Est-ce qu'ils vont maintenant trouver un terrain d'entente ? Ça m'étonnerait, parce que l'opinion publique africaine est vraiment contre. Et je crois que un président qui légaliserait les droits des LGBT serait vraiment écarté du pouvoir.
Oui, les décisions ne seraient pas populaires, mais
Je me souviens, si vous le permettez, en pleine conférence de presse d'Obama au Sénégal, il y a peut-être 5 ans, Obama a demandé au président Macky Sall, de légaliser les droits des lesbiennes et autres. Alors, réponse immédiate. Alors, il y avait toutes les télévisions nationales et internationales. Hein. Vous savez, si vous voyez votre voyage, il y a toute la presse internationale.
Bien sûr.
Alors, le président Sall a dit, vous voyez, je suis pas prêt à le faire, et tant que je serai aux commandes du Sénégal, enfin, au destin du Sénégal, je le ferai jamais. C'est pour vous dire, donc, moi, je vois pas vraiment une issue, quoi.
Une fin de non-recevoir, a priori. Et tu me disais, hors antenne, que donc beaucoup d'Africains homosexuels décident plutôt que de se taire, de partir, de s'expatrier, finalement, vers des pays plus cléments, plus ouverts aux droits des homosexuels.
Mais c'est ça. Les plus malheureux que l'État parvient à identifier, alors qu'est-ce qu'on fait ? On les enferme quelque temps, le temps de négocier, par exemple, des visas de sortie, des visas d'immigrants, dans les pays occidentaux, aux États-Unis ou ailleurs.
Mm-hmm.
Et voilà, parce que si on les laisse, on les livre à la vindicte populaire, quoi. Ils peuvent les tuer.
Une situation bien embarrassante tout de même pour ces pays africains, et on espère qu'une solution à travers l'ONU ou sans l'ONU se profile malgré tout à l'horizon pour que ces droits de gens ressortissants des LGBT puissent être pris en compte, y compris sur le continent africain.
Ça va venir parce que, par exemple, ici au Canada, c'était comme ça. Hein. Ils ont réussi à avoir le mariage. Ils ont réussi à se marier ici dans les années 2000.
Oui.
C'est récent, là.
Oui, oui, l'évolution est lente.
Ça va prendre le temps que les esprits se forment et puis voilà.
Absolument.
Ça va venir. Je ne sais pas combien de temps maintenant. Mais je vais laisser les auditeurs méditer ce que disait. Ce que disait Desmond Tutu, le prix Nobel de la paix, le Sud-Africain,
oui.
Il disait, il comparait les lois homophobes aux lois de l'apartheid qui condamnait les personnes en raison de leur couleur de peau.
Alors voilà, une belle comparaison à méditer, effectivement. Merci beaucoup, Mansour, pour ce point sur les droits LGBT en Afrique. Une question tout à fait épineuse et intéressante dont on ne parle pas assez, justement. Quant à
Merci
nous, on reste sur les ondes de Choc FM 105.1.